Nicolas Martin, vous allez faire quoi, vous?
Oh, j'ai prévu un certain nombre d'animations personnelles que je laisse que en suspens. Il faudra venir les découvrir.
Voilà, venez au centre Georges Pompidou en attendant, quand le ciel est bas et lourd, pèse comme un couvercle, ça me rappelle quelque chose.
Et oui, sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir, plus triste que les nuits.
Merci Nicolas Martin.
C'est l'air du temps, Guillaume, le spleen baudelairien, impossible d'y échapper, même les plus aguerris de vos éditorialistes y cèdent ce matin. Tenez, prenez Le Parisien qui titre sur la photo, vous voyez d'une petite fille en ciré kaki, les bottes roses qui détonnent dans une étendue de pluie de la même couleur que son imperméable. Sous le titre Inondation, il ne manquait plus que ça. Le journal prévient que la dépression qui balaie la France doit durer jusqu'à vendredi. On parle bien sûr de la dépression météorologique, hein, pas du spleen, quoique bien sûr le doute est permis. Même Jean-Marie Montali, dans son édito, toujours dans Le Parisien, cède à une mélancolie toute baudelairienne. Je le cite, un monde gris sous un ciel aussi bas qu'une galerie de mines et des pluies diluviennes qui noient le moral aussi sûrement qu'elles inondent une partie de la France. Pour peu, on chercherait presque une prosodie, une versification en 12 pieds. À défaut d'Alexandrin, les pieds, eux, sont bien dans l'eau de pluie, qui conduit également Étienne de Montetti à un certain lyrisme dans son billet dans Le Figaro, citant non pas Baudelaire, mais Madame de Sévigné. Nous avons eu ici des pluies continuelles et au lieu de dire après la pluie vient le beau temps, nous disons après la pluie vient la pluie.
Ah oui, ça effectivement, c'est du vécu.
Aurait-elle sur nos existences, la pluie bien sûr, un empire tel qu'elle y ferait ce qu'elle veut. Pour ainsi dire, la pluie et le beau temps, elle a le pouvoir d'abattre le moral en tout cas, car elle vient après d'autres calamités nommées grèves et manifestations et qui, elles aussi, tombent dru ces temps-ci.
Il n'y a pas que les manifestations et la pluie qui tombent dru quand même.
Et non, il y a aussi ce que la presse appelle comme les échos les cadeaux de Hollande. Le chef de l'État se transforme en Père Noël avant l'heure. Vous me direz, il manquerait plus qu'il neige. Enseignant, intermittent, l'État multiplie les gestes pour circonscrire les conflits et préparer 2017 sous titre Le Journal. C'est ce que la plupart des éditorialistes qualifient ce matin de revendication catégorielle. Guillaume Goubert, dans La Croix, le gouvernement satisfait des revendications catégorielles pour apaiser la contestation. Nicolas Bétou dans L'Opinion, on sait déjà que la loi finance élaborée à l'automne se résumera à un exercice d'arrosage catégoriel, ou encore Hervé Chabot dans La Montagne qui explique que le gouvernement lâche du lest sur les revendications catégorielles en cajolant le bataillon de la gauche dans la fonction publique, les enseignants. C'est intéressant ce mot catégoriel,
c'est
Guillaume. Je vous refais un petit topo sur catégorie vite fait.
Allez.
Les catégories, vous le savez, c'est surtout et avant tout le principal traité d'Aristote dans lequel il développe les racines de son ontologie, notamment les fonctions du langage, la catégorie étant le mode d'accusation de l'être, l'accusation au sens des différentes façons de signifier, de désigner ce qui est. La catégorie est donc ontologiquement ce qui nous permet de parler contre, de différencier, de structurer le réel en somme. On pourrait résumer à grands traits que les catégories, c'est ce qui nous permet d'ordonner le désordre. Et me voilà revenu à ces revendications catégorielles que le gouvernement abonde pour tenter d'ordonner le désordre. Mais à quel coût? C'est cette question, hein, plus que les questions ontologiques qui taraudent la plupart de vos journaux ce matin. Pour les échos, le coût des mesures sectorielles va bondir en 2017. Bercy chiffre les dépenses nouvelles à 4 milliards d'euros pour 2016, tandis que pour La Croix, les concessions budgétaires consenties par François Hollande depuis le début de l'année s'élèvent à environ 7 milliards d'euros. Il faut admettre que la liste de ces catégories est longue, comme un jour sans pain, on verse dans du Zola maintenant. Les enseignants, les jeunes en attente d'un emploi, les chômeurs en formation, les chercheurs, la SNCF, les intermittents, les gendarmes et les policiers, les fonctionnaires du bas de l'échelle, chaque jour voient s'accélérer la belle braderie, estime Nicolas Bétou dans L'Opinion, qui lui aussi a assorti sa calculette. Cette ouverture en grand des vannes budgétaires est pernicieuse, elle engage la signature de l'État bien au-delà de 2017 et la quasi-certitude qu'il sera battu l'an prochain permet à François Hollande de regarder les conséquences budgétaires de ses cadeaux avec un détachement qui confine au cynisme. Ce n'est vraisemblablement pas lui qui aura à assumer toutes ses impasses avec l'argent public.
Et de l'argent, Nicolas Martin, il va falloir en trouver pour financer tout ça.
Eh bien, à ce propos, deux pistes se détachent dans vos journaux ce matin. Première piste, le recouvrement de l'ISF d'Emmanuel Macron. C'est Le Canard et Mediapart, hein, qui sortent l'info, ne pas payer l'impôt mot de solidarité sur la fortune, cela vous pose un jeune ministre de gauche et cela estompe un peu l'image du banquier associé gérant chez Rothschild. Le ministre des Finances aurait donc sous-évalué son patrimoine et viendrait d'être redressé sur 3 ans. Dans l'entourage de Macron, précise Le Canard, on déploie aujourd'hui des trésors de persuasion pour expliquer que le ministre n'a pas été victime d'un redressement fiscal. Il a fait spontanément une déclaration fiscale rectificative pour un montant de rattrapage inférieur à 10 000 euros selon Mediapart. Alors vous allez me dire, ce n'est pas avec 10 000 euros en plus que l'État va pouvoir payer tous ces cadeaux dits catégoriels, et vous aurez bien raison, c'est pour ça que des sénateurs LR ont trouvé une autre piste, c'est l'Humanité qui le rapporte. Les grands élus de droite ont déposé une proposition de loi qui vise à lutter contre la fraude aux prestations sociales, une fraude qui représente 613 millions d'euros. Pas un mot, en revanche, sur un autre type de fraude sociale, la fraude aux cotisations sociales, écrit Pierre Duquesne, qui représente entre 20 et 25 milliards par an de manque à gagner. Rien sur la fraude fiscale, qui s'élève à 70 milliards d'euros par an. Non, leur obsession aux sénateurs LR, c'est de contrôler le train de vie des allocataires du RSA qui vivent avec 524,68 euros par mois. Qu'on débatte de telles mesures stigmatisantes envers les plus pauvres et qui divisent les Français, c'est désolant, déplore dans les colonnes de l'UMA Laurenceux du Secours catholique. Cela révèle combien notre système politique est malade et j'en reviens à mon introduction. Et de longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme l'espoir vaincu, pleure et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Et la bonne journée.